Si j'en bouche une seule, cela n'empêchera pas le navire de sombrer. Qu'est-ce donc, me demanderez-vous, que la repentance? Je vous en donnerai la définition. En langage militaire, c'est ce que les soldats appellent un demi-tour à droite. C'est changer absolument de direction, c'est marcher dans le sens opposé à celui que l'on a suivi. Retournez-vous, retournez-vous, car pourquoi mouriez-vous? Peu importe qu'un homme soit heureux ou malheureux dans le péché, qu'il en souffre ou n'en souffre pas, s'il ne s'en détourne, Dieu ne peut lui faire grâce. La repentance, c'est un changement d'esprit ou de détermination. Prenons pour exemple cette parabole racontée par Christ, Matthieu 21, 28-29, que vous ensemble. Un homme avait deux fils et, s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne ?» Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Après qu'il eut dit non, il réfléchit et changea d'avis. Peut-être, se dit-il, je n'ai pas parlé respectueusement à mon père. Il m'a demandé d'aller travailler et j'ai refusé, j'ai eu tort. Mais supposé qu'il eût ainsi parlé et s'en fût tenu là, il ne se serait pas repenti. Non seulement il demeura convaincu qu'il avait eu tort, mais il s'en alla aussitôt au champ pour labourer. Voilà comment Christ lui-même définit la repentance. Si quelqu'un dit par la grâce de Dieu, j'abandonne mon péché et je ferai désormais sa volonté, celui-là se repent, c'est la véritable conversion. Peut-on se repentir sur le champ? Certainement. Il ne faut pas 6 mois pour changer d'avis. Il y a un moment, dans la vie de tout homme, où il peut s'arrêter et dire par la grâce de Dieu, je n'irai pas plus loin sur le chemin de la mort éternelle. Je me repens de mes péchés et je m'en détourne. S'il laisse passer ce moment-là, il peut y être trop tard. N'attendez pas de sentir vivement vos péchés. Si vous êtes convaincu d'être dans la mauvaise voie, cela suffit, détournez-vous aussitôt, c'est la vraie repentance et c'est le salut. Tous les exemples de conversion qui se trouvent dans la Bible sont des conversions instantanées. La repentance et la foi viennent, le plus souvent, soudainement, au moment où un homme se décide, Dieu lui donne la force. Il ne lui demande pas de faire l'impossible. À l'homme de vouloir, à Dieu de pouvoir. Il ne commanderait pas à tous les hommes de se repentir s'ils en étaient incapables. Ceux qui ne se repentent pas et ne croient pas à l'Évangile ne pourront blâmer qu'eux-mêmes. La vraie repentance doit porter des fruits. Si nous avons fait tort à quelqu'un, nous ne pouvons demander à Dieu de nous pardonner avant d'avoir réparé le mal. Un vol de confiance. Un soir que j'évangélisais dans une ville, je fus abordé après la réunion par un homme de belle apparence. Il était dans une grande angoisse. « Voici le fait, me dit-il, je suis un voleur ? » J'ai pris de l'argent à mes patrons. « Comment puis-je devenir chrétien sans rendre cet argent-là ? Avez-vous la somme ? » Lui demandai-je. Il me répondit qu'il ne l'avait. Pas tout entière, il avait dérobé 7 500 FR et il ne lui en restait plus que 4 750. Il me dit « Ne pensez-vous pas qu'avec cet argent, je pourrais faire des affaires et gagner ainsi de quoi rendre la somme entière ?» Je lui répondis que c'était là une mauvaise pensée, qu'il ne pouvait s'attendre à prospérer avec de l'argent volé, qu'il lui fallait rendre tout ce qui lui restait et demander pardon à ses maîtres. « Mais ils me mettront en prison, » répondit-il. « Ne pouvez-vous m'aider ?» Non, il faut rendre l'argent avant que vous puissiez attendre aucun secours de Dieu. C'est bien dur, reprit-il. Très dur, répondis-je, mais c'est la conséquence inévitable d'une grande faute. Le fardeau devint si lourd qu'il n'y put tenir. Il me remit l'argent, 4 750 francs et quelques centimes, et me demanda de le rapporter à ses patrons. Le soir suivant, les deux négociants et moi, nous nous rencontrâmes dans une chambre attenante à l'église. Je mis l'argent devant eux et je les informai qu'ils venaient de l'un de leurs employés. Je leur racontai l'histoire, je leur dis que ce dont cet homme avait besoin, c'était de miséricorde et non de justice. Les larmes coulèrent sur les visages de ces deux hommes et ils me dirent « Certes, nous serions heureux de lui pardonner. » Je descendis pour aller le chercher. Après qu'il eut confessé sa faute et reçu son pardon, nous nous mîmes tous quatre à genoux et nous eûmes une réunion de prière bénie. Dieu se trouvait au milieu de nous. L'incendiaire. Après une de mes prédications, un homme s'approcha de moi. « Voyez, me dit-il, mes cheveux sont gris et je n'ai que 32 ans. Il y a 12 ans que je porte un terrible fardeau. Quel est-il ? » lui demandai-je. Mon père mourut et laissa ma mère seule le avec moi, n'ayant qu'une petite imprimerie pour toute fortune. Après sa mort, le petit journal que nous imprimions commença à baisser et je vis ma mère descendre, peu à peu dans la misère. La maison et le journal étaient assurés pour 5 000 francs. J'avais 20 ans. Je mis le feu à la maison, je touchai les 5 000 francs et les donnai à ma mère. Il y a 12 ans que le souvenir de ce crime me hante. J'y ai essayé de le noyer dans les plaisirs, j'ai blasphémé, j'ai cherché à devenir incrédule, j'ai voulu me prouver à moi-même que la Bible n'est pas vraie, j'ai tout fait, sans parvenir à faire cesser mes tourments. Je lui dis, il y a un moyen de sortir de là, lequel ? Me demanda-t-il. Restituer. Asseyons-nous, calculons l'intérêt de ces 5 000 francs et vous payerez cette somme à la compagnie d'assurance. Vous auriez eu du plaisir à voir le visage de cet homme s'illuminer lorsqu'il s'aperçut qu'il y avait espoir pour lui. Souvenez-vous que maintenant est le seul instant favorable pour vous repentir. Maintenant, vous pouvez voir tous vos péchés effacés. Dieu veut vous pardonner. Il cherche à vous ramener à lui. Mais la Bible enseigne clairement qu'il n'y a point de repentir après cette vie. Certains docteurs prétendent qu'il est possible d'être sauvé au-delà du tombeau. Je ne vois pas cela dans l'Écriture. J'ai sondé soigneusement ma Bible et je n'ai pu y trouver un seul texte m'autorisant à croire qu'il y ait au-delà de la tombe d'autres occasions de salut. Et pourquoi nous faudrait-il plus de temps que Dieu ne nous en donne ? À cet instant même, si vous le voulez, vous pouvez vous détourner de vos péchés. Ézéchiel 18, 32 « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Chapitre 7. L'assurance du salut. Il y a deux classes de personnes qui ne peuvent avoir l'assurance du salut. La première, ce sont les chrétiens de nom qui ne sont pas réellement convertis et ne sont pas nés de l'Esprit. La seconde, ce sont ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, qui s'éloignent du devoir et ne veulent pas prendre la place que Dieu leur indique mais veulent en choisir une autre. Quelqu'un demandera, tous les chrétiens ont-ils cette assurance ? Non, je crois que beaucoup de vrais enfants de Dieu ne la possèdent pas, mais tous peuvent l'avoir s'ils le veulent, c'est leur privilège. J'ajoute que personne n'est qualifié pour le service de Dieu s'il est rempli de doutes sur son propre salut. S'il n'est pas sûr d'être sauvé lui-même, comment conduira-t-il les autres dans le royaume de Dieu ? Si je suis en danger de me noyer, je ne puis assister ceux qui se noient. Un aveugle ne peut enseigner à un autre aveugle le moyen d'être guéri, ou bien il s'attirera cette réponse, « Guéris-toi toi-même d'abord. » Il y a trois ruses de Satan contre lesquelles nous devons soigneusement nous mettre en garde. En premier lieu, il met en mouvement toutes ses forces pour nous tenir loin du Christ. En second lieu, il s'attache à nous enfermer dans le château du doute, comme dit Bunyan dans Le Voyage du Chrétien. Et enfin, si malgré tout, nous restons fidèles au Fils de Dieu, il s'efforcera de ternir notre caractère et de démentir notre témoignage. Venons maintenant à la parole de Dieu. Dans son évangile, Jean nous dit ce que Christ a fait pour nous sur la terre, dans son épître, ce qu'il fait pour nous dans le ciel. Tous les chapitres de son évangile, excepté deux, contiennent le mot « croire ». Jean 20, 31 « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Nous trouvons la raison pour laquelle cette épître a été écrite. Il n'y a que 5 chapitres dans cette courte épître, et le verbe « savoir » s'y trouve plus de 40 fois. Savoir. 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 C'est la clé de l'épître, le refrain qui court d'un bout à l'autre, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Sans doute, dira quelqu'un, je sais tout cela, mais j'ai péché depuis que je suis devenu chrétien. Y a-t-il, répondrai-je, un seul être sur la terre qui n'ait jamais péché depuis qu'il s'est converti? Pas un seul. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais une âme ici-bas qui n'ait péché et ne pêche encore à quelque moment de sa vie chrétienne. Mais Dieu a préparé quelque chose en vue des péchés des croyants. Ce n'est pas à nous d'en faire l'expiation. Dieu l'a faite. 1 Jean 2, un mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il écrit au juste, il se met du nombre si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Et quel avocat? Il plaide notre cause au seul endroit où il soit possible de la plaider près du trône de Dieu. Il dit, avant de quitter ses disciples, Jean 16, c'est cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'était pour devenir notre grand prêtre et notre avocat. Il a eu des causes désespérées à plaider, il n'en a perdu une seule, et si vous lui confiez vos intérêts éternels, Judas, 24 heures à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Pour le chrétien, les péchés passés sont pardonnés dès qu'il en a fait confession. À Dieu, il n'y a plus à y revenir. Un moyen de reconnaître si nous sommes chrétiens nous est indiqué 2 Corinthiens 13, 5 examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, et prouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Examinez-vous? Mettez votre religion à l'épreuve? Pouvez-vous pardonner à vos ennemis? Pouvez-vous subir une insulte comme Jésus-Christ? Pouvez-vous être blâmé pour avoir fait le bien et ne pas murmurer? Pouvez-vous être calomnié sans cesser de montrer la douceur du Christ? Un autre moyen, c'est d'examiner si vous avez les fruits de l'esprit. Galates 5, 23, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Si j'ai les fruits de l'esprit, je possède l'esprit de Dieu. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Un autre passage très frappant, Paul dit Romains 8, 9 pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà qui décide la question. Toutes les formes et toutes les cérémonies de l'Église ne remplacent pas l'Esprit du Christ. Comparez votre vie à celle de Saint Paul. Si la vôtre ressemble à la sienne, c'est une preuve que vous êtes né de nouveau, que vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais, une fois né de nouveau, il vous faudra du temps pour devenir un chrétien parfait. La justification est instantanée, mais la sanctification est l'œuvre d'une vie entière. Nous devons croître en sagesse. Pierre dit, 2 Pierre 3, 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il dit, 2 Pierre 1, 5-8, à cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la science la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'appelle votre attention sur un autre fait. Toutes les épîtres de Saint Paul sont pleines de cette doctrine, l'assurance du salut. Il dit, 2 Corinthiens 5, 1-8, nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Il avait droit à cette demeure céleste, et il le savait. Il ne vivait pas dans l'incertitude. Il dit encore, Philémon 1, 23 Opaphra, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Il n'eût pas dit cela s'il n'eût été certain du lieu où il allait. La même confiance se retrouve dans les paroles de saint Paul à Timothée. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Il ne s'agit pas d'un sentiment, il sait d'une manière positive qu'il sera gardé. Le mot « j'espère » n'est jamais employé dans l'Écriture, comme nous le faisons souvent, pour exprimer le doute. Il est employé pour ce qui concerne la seconde venue du Christ et la résurrection des corps, deux choses absolument certaines. Nous ne pouvons pas plus dire « j'espère que je suis chrétien » que « j'espère que je suis français ». Ce sont des choses arrêtées, positives. Si nous sommes nés de Dieu, nous devons le savoir. Certaines gens prétendent que l'on ne peut savoir, avant de comparaître devant le tribunal de Dieu, si l'on sera sauvé ou non. C'est une erreur dangereuse. Si votre vie est cachée avec Christ en Dieu, vous ne pouvez plus être appelé en jugement pour vos péchés. Vous comparaîtrez devant le Seigneur pour recevoir une récompense proportionnée à vos travaux. C'est ce qui est clairement enseigné dans la parabole des talents. Matthieu 25, nous devons répondre de notre administration, mais non de nos péchés. Ce sont deux choses qu'il ne faut pas confondre. Dieu ne peut demander deux fois le paiement de la dette que Christ a soldée pour nous. Laissez-moi vous dire d'où viennent tous nos doutes. C'est que beaucoup de sincères enfants de Dieu ne sortent pas du rôle de serviteurs. Nous sommes plus que cela, nous sommes des fils et des filles. Il nous appelle ses amis. Entrez dans une maison, vous y verrez bientôt la différence qui existe entre le serviteur et le fils. Le fils va dans toutes les parties du logis en toute liberté, il est chez lui. Mais le serviteur prend une place inférieure. Ce qui nous manque, c'est la hardiesse de nous considérer comme des fils et des filles de Dieu. Il ne nous a pas seulement adoptés, mais il nous a engendrés, nous sommes nés dans sa famille. Mon enfant était aussi bien à moi le premier jour de sa vie qu'aujourd'hui. Il était déjà mon fils, quoique ce qu'il serait, plus tard ne parut pas encore. Il est à moi, quoiqu'il doive passer quelque temps, sous la discipline des maîtres. Les enfants de Dieu ne sont pas parfaits, mais ils sont parfaitement ses enfants. Ce qui cause encore nos doutes, c'est que nous regardons trop à nous-mêmes. Il y a, dit quelqu'un, trois manières de regarder. Voulez-vous être malheureux ? Regardez au-dedans de vous. Voulez-vous être dissipé ? Regardez autour de vous. Voulez-vous avoir la paix ? Regardez en haut. Pierre détourna ses regards au Christ et commença à s'enfoncer. Le maître lui dit, Matthieu 14, 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Il avait, pour s'y appuyer, la parole du Dieu éternel, plus solide que le roc, mais dès qu'il ne s'y confia plus, il sombra. Regardons constamment à celui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Le président Lincoln publia une proclamation qui mettait en liberté 3 millions d'esclaves. Au jour fixé, leur chaîne devait tomber. La proclamation fut affichée partout, clouée aux arbres et aux murailles, par les soldats du Nord. Beaucoup d'esclaves ne savaient pas lire, mais beaucoup lurent l'affiche et crurent à leur émancipation. Au jour marqué, on entendit en bien des lieux ce grand cri « Nous sommes libres ». D'autres ne voulurent pas le croire et restèrent avec leur maître. Cela n'empêchait pas que la liberté ne fût aussi pour eux. De même, Christ, le capitaine de notre salut, a proclamé l'affranchissement de tous ceux qui croient en lui. Croyons-le sur parole, quels que soient nos sentiments, nos impressions relativement à nous-mêmes. Ce n'est pas de nous, mais d'un plus grand que nous, que nous est venue la liberté. L'évêque Ril s'exprime ainsi: la foi est la racine dans la souffrance et la fleur. Sans doute on ne peut avoir la fleur sans la racine, mais il n'en demeure pas moins que l'on peut avoir la racine sans la fleur. La foi, c'est la vie. Quel immense bienfait! Qui pourrait sonder l'abîme qui sépare la vie de la mort? Cependant, la vie peut être faible, maladive, pénible, anxieuse, fatigante, sans joie, sans sourire, et cela jusqu'à la fin. L'assurance, c'est plus que la vie. C'est la santé, la force, la puissance, la vigueur, l'activité, l'énergie, la virilité, la beauté. Chapitre 8. Pour les chrétiens, a-t-il dit, rien n'est meilleur pour ces chrétiens-là que d'être ramenés à la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier que dans ce cas l'Ancien Testament est aussi important que le Nouveau. Le livre de Jérémie est particulièrement éloquent et touchera le cœur de bien des chrétiens qui ont oublié ce que le Seigneur a fait pour eux. Prenez Jérémie 6, 10 à qui m'adresser et qui prendra témoin pour qu'on écoute. Voici, leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. Voilà comment la Bible décrit l'état des chrétiens déchus. Ils n'aiment pas la parole de Dieu, ils n'y prennent aucun plaisir et ne s'en nourrissent pas. Ils ont abandonné les voies dans lesquelles ils avaient couru avec tant d'ardeur. Comme Adam et Ève, ils ont écouté la voix du tentateur au lieu d'entendre celle de Dieu qui devait les maintenir dans la route royale. Une chose très importante sur laquelle vous devez attirer l'attention de ces chrétiens, et celle-ci, ce n'est pas le Seigneur qui les a abandonnés, mais c'est eux qui lui ont été infidèles et, qui plus est, sans cause. Dieu lui-même leur adresse ces paroles sévères. Quelle iniquité vos frères ont-ils trouvé en moi qu'il m'ait abandonné? Dieu n'est-il pas le même que quand vous vous êtes donné à lui? Dieu a-t-il changé? Nous sommes promptes à penser que Dieu change quand, hélas? C'est nous qui perdons notre premier amour. Vous êtes allés, dit l'Éternel, à des citernes qui ne contenaient point d'eau. Le monde ne peut satisfaire le nouvel être créé au-dedans de vous par le sang de Jésus-Christ. Combien y en a-t-il qui autrefois jouissaient de la communion de leur Dieu et qui aujourd'hui pensent plus à leurs vêtements qu'à leurs âmes précieuses? Quand on aime, on ne peut supporter d'être oublié. Vous, mère, votre cœur ne se brise-t-il pas quand vos enfants s'en vont loin de vous et ne vous envoient ni un mot d'amour, ni le plus petit témoignage d'affection? Eux pourtant, chrétiens infidèles, Dieu plaide avec toi comme des parents le feraient avec un enfant bien-aimé.